Chapitre 2. Fils. Preneur se donna le premier le titre de roi du château de Castelserre. Pirate, pillard, il avait quitté les îles d'outre-mer pour venir sur nos côtes, comme bien d'autres avant lui. Il vit dans le fort de bois perché sur les falaises qui surplombaient le fleuve un site idéal pour établir une tête de pont permanente sur le continent. Du moins, s'agit-il là d'une version de l'histoire. D'autres racontent que glacé, trempé, l'estomac au bord des lèvres, il cherchait une terre pour enfin quitter le ventre agité de l'océan. Quels que fussent ses motifs, il réussit à prendre d'assaut la place forte aux antiques fondations de pierre et devint le premier souverain loin-voyant de Castelserre. Il avait employé le feu pour y pénétrer. En conséquence, il se servit pour bâtir de nouvelles fortifications de la pierre noire qui abonde dans la région. On constate donc que, depuis ses origines, la famille régnante des Siduchés se rattache par ses racines aux îles d'outre-mer. Elle n'est pas seule dans ce cas, naturellement, car les peuples des deux pays ont mêlé leur sang aussi souvent qu'ils l'ont versé. Histoire de Ventourne. À 5 jours de la date prévue de notre départ, le voyage commença de m'apparaître comme une réalité. Jusque-là, j'étais parvenu à en chasser la perspective de mes pensées et à ne le considérer que comme une abstraction. Je m'y étais préparé, certes, mais seulement à titre d'éventualité. J'avais étudié l'écriture outrilienne et passé nombre de mes soirées dans une taverne fréquentée par les marchands et les marins d'outre-mer, où je m'étais attaché à apprendre leur langue du mieux possible. J'avais découvert qu'en ce qui me concernait, la meilleure technique consistait simplement à écouter leur conversation. Le parler outrilien a beaucoup de racines communes avec le nôtre, et au bout de quelques séances, il avait pris une sonorité familière à mes oreilles. Je ne le maniais pas bien, mais j'étais capable de me faire comprendre, et, ce qui est plus important, de comprendre à peu près ce que j'entendais. J'espérais que cela suffirait. Mes leçons avec l'Est avaient bien avancé aussi. Par certains côtés, le garçon me manquerait lorsque nous partirions, mais par d'autres, je me réjouirais d'être débarrassé de lui. Il n'avait pas menti. Pour un enfant de 10 ans, il se servait d'un arc avec une virtuosité exceptionnelle. Je l'avais signalé à Foncresson, et le maître d'armes s'était fait une joie de se charger de lui.
« Il marche à l'instinct. Il n'est pas du genre à se camper solidement sur ses jambes et à prendre son temps pour viser. Avec ce garçon, la flèche part autant de l'œil que de l'arc. Il gaspillerait son talent à la hache. Développons plutôt sa musculature de façon qu'il puisse employer des arcs de plus en plus longs et puissants à mesure qu'il grandira. »
Je transmis l'avis de Foncresson à Humbre, qui y acquiesça en partie.
« Toutefois, nous le formerons aussi à la hache, » me dit-il. « Ça ne pourra pas lui faire de mal. »
J'ai honte de l'avouer, mais j'éprouvais un grand soulagement à devoir passer moins de temps en compagnie de l'enfant. Il était très intelligent et d'un commerce agréable, sauf sous 2 aspects qui me gênaient chez lui. Il ressemblait beaucoup trop à la fois à Molly et à Burick, et il ne pouvait s'empêcher de toujours ramener sur le tapis la question de sa magie. Quel que fût le sujet de la leçon, il trouvait le moyen de le dévier sur une discussion à propos du vif. L'étendue de son ignorance sur la question m'épouvantait, mais l'idée de corriger ses conceptions erronées me mettait mal à l'aise et je décidai de consulter Tram. Je dus d'abord le voir à un moment où il était seul. Depuis son arrivée à la cour de Castelserre, en tant que représentant et avocat de ses semblables et de leur magie calomniée, il avait gagné le respect de nombreuses personnes qui, jusque-là, méprisaient le vif et ceux qui le pratiquaient. Souvent, on l'appelait le maître de vif. Ce titre, qui se voulait à l'origine une raillerie de la volonté de la reine de faire accepter la magie proscrite, était en train de prendre une valeur honorifique reconnue. Beaucoup lui demandaient conseil, et pas seulement à propos du vif ou de la communauté du lignage. Homme affable, Tram s'intéressait à tous ceux qui l'entouraient, et avait le talent de discuter avec entrain de quasiment n'importe quel sujet. Néanmoins, on le qualifierait plus justement d'auditeur actif que de bavard, et celui qui sait écouter se fait apprécier en général. Même s'il n'avait pas eu le statut officieux d'ambassadeur des vifiers du royaume, je crois qu'il serait rapidement devenu une des coqueluches de la cour. Toutefois, sa position attirait d'autant plus l'attention car, pour celui qui désirait montrer à la reine qu'il adhérait à sa politique sur les vifiers, quel meilleur moyen que d'inviter Trame à dîner ou à participer à un divertissement? Nombre de nobles cherchaient ainsi à s'insinuer dans les bonnes grâces de la souveraine. Rien dans son expérience, j'en suis sûr, n'avait préparé Trame à se retrouver le point de mire de la haute société. Pourtant, il avait endossé ce rôle sans difficulté, comme il prenait apparemment tous les événements de l'existence, et ne s'en laissait pas tourner la tête, autant que je puisse en juger. Il manifestait toujours le même intérêt passionné pour les bavardages d'une fille de service que pour les échanges complexes d'idées des nobles des plus hauts rangs. Je le voyais rarement seul. Il existe, néanmoins, encore certains lieux où la bonne société ne suit pas ceux qui s'y rendent. J'attendis Trame près des latrines. Je le saluai quand il en sortit et dit « J'aurais besoin de vos conseils. Pourrions-nous faire une promenade un peu à l'écart, dans le jardin des femmes, le temps d'échanger quelques mots ?» Il haussa ses sourcils grisonnants, puis hocha la tête. Sans rien dire, il m'emboîta le pas de sa démarche chaloupée de loup de mer et n'eut aucune difficulté à suivre mes longues enjambées. Depuis ma plus tendre enfance, j'avais toujours aimé le jardin des femmes. Il fournit la plus grande partie des herbes et des légumes frais utilisés en été aux cuisines, mais il est conçu autant pour le plaisir de la déambulation que pour l'entretien et la récolte de ses produits. On l'appelle le jardin des femmes tout simplement parce que ce sont principalement des femmes qui s'en occupent, et notre présence n'éveillerait aucune curiosité déplacée. Je cueillis en passant plusieurs frondes de fenouil de l'année et en offris une à Trame. Au-dessus de nos têtes, un bouleau déroulait ses feuilles. Des carrés de rhubarbe entouraient le banc que nous choisîmes, et de grosses pousses rouges pointaient déjà de la terre. Sur certains pieds, les feuilles chiffonnées commençaient à se défriper à la chaleur du soleil, et il faudrait les encaisser bientôt pour obtenir des pétioles assez longs. J'en fis la remarque à Trame. Il gratta sa barbe grise et rase d'un air pensif, puis il me demanda une étincelle amusée au fond de ses yeux pâles.
« C'est à propos de rhubarbe que vous désiriez mon conseil ?»
Et il se mit à grignoter l'extrémité de sa tige de fenouil en attendant ma réponse. « Non, naturellement. En outre, je vous sais très occupé. Aussi, ne vous retiendrai-je pas plus que nécessaire. Je m'inquiète pour un jeune garçon dont on m'a confié l'instruction et la formation aux armes. Il s'appelle Lest, et c'est le fils d'un ancien maître des écuries de Castelserre, Burick. » Ils se sont brouillés lors d'une dispute à propos de l'usage du vif, dont l'enfant est doué, et depuis il a pris le nom de Lest Vifier.
Ah !
Trame hocha vigoureusement la tête.
Oui, je vois de qui il s'agit. Il vient souvent m'écouter quand je raconte des histoires le soir, mais il reste toujours à l'extérieur du cercle d'auditeurs et je ne me rappelle pas qu'il m'ait jamais adressé la parole.
Ça ne m'étonne pas. Eh bien, je l'ai fortement encouragé non seulement à vous écouter, mais aussi à s'entretenir avec vous. Sa façon de considérer sa magie et d'en parler me préoccupe. Il n'y est pas formé, car son père rejetait totalement le vif. Hélas, son ignorance ne le pousse pas à la prudence, mais à la témérité. Il exhibe sa magie à tous ceux qui croisent son chemin et l'agite sous leur nez jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'ils l'ont bien vu. Je l'ai averti que, décret royal ou non, le vif inspire toujours de l'aversion à nombre d'habitants de Castelserre. Il n'a pas l'air de comprendre qu'on ne change pas le cœur des gens en modifiant la loi. Il se met en danger en affichant ainsi sa magie. Or, je devrais bientôt le laisser seul pour accompagner mon prince. Il ne me reste que 5 jours pour lui instiller une certaine mesure de discernement. Je repris mon souffle, et Trame dit d'un ton compatissant, «
Je conçois que cette situation vous mette très mal à l'aise. »
Ce n'était pas la réaction que j'attendais. Et je demeurai interloqué un instant. Je ne m'inquiète pas seulement de sa manière de révéler sa magie à tous, répondis-je. Il ne se cache pas de sa volonté de choisir un animal de lien, et le plus tôt possible. Il m'a demandé mon aide en me priant de l'emmener aux écuries. J'ai rétorqué qu'à mon avis, on ne s'y prend pas ainsi. Une telle union comporte certainement bien d'autres facettes, mais il ne m'écoute pas. Il repousse mes conseils sous prétexte que si j'avais le vif, je comprendrais mieux son besoin de faire cesser sa solitude. Je m'étais efforcé de prononcer cette dernière phrase sans laisser transparaître mon irritation. Tram toussota avec un sourire mi-figue mi-raisin.
« Et je conçois à quel point cela doit être exaspérant pour vous. »
Un frisson d'angoisse me parcourut. Je sentais dans cette remarque le poids d'un savoir dissimulé. Je tâchais de ne pas en tenir compte. Voilà pourquoi je voulais vous consulter, Tram. Accepteriez-vous de lui parler? Vous seriez le mieux placé, je crois, pour lui apprendre à vivre avec sa magie sans qu'elle le déborde. Vous pourriez lui expliquer pourquoi il ne doit pas se précipiter pour se lier et pourquoi il ne doit pas se jeter à la tête des gens pour leur annoncer qu'il possède le vif. Bref, vous pourriez lui enseigner à assumer sa magie comme un adulte avec dignité et discrétion. Tram se laissa aller contre le dossier du banc. Les feuilles de sa tige de fenouil dansèrent tandis qu'il en mâchait pensivement l'extrémité. Enfin, il répondit d'un ton posé. « Tout cela, vous pouvez le lui inculquer vous-même, fit ce chevalerie. Il suffit que vous le décidiez. » Il me regarda dans les yeux, et dans les siens, sous le ciel limpide du printemps. Le bleu parut prédominer sur le gris. Il n'y avait aucune froideur dans son regard, et pourtant, j'avais l'impression qu'un trait de glace me transperçait. Parfaitement immobile, j'inspirais profondément et avec lenteur pour calmer les battements de mon cœur, en espérant que mon expression ne me trahirait pas, tandis que je me demandais comment il pouvait être au courant de mon identité. Qui la lui avait apprise? Imbre? Etriken? Devoir? Avec une logique implacable, il reprit. Naturellement, vos propos n'auraient de poids que si vous lui révéliez posséder le vif vous aussi, et il prendrait tout leur effet si vous lui disiez aussi votre véritable nom et la relation qui vous unit à son père. Mais peut-être est-il encore un peu jeune pour lui confier l'intégralité de ce secret. Le temps de deux respirations, il soutint encore mon regard, puis il se détourna. J'en ressentis un immense soulagement jusqu'au moment où il ajouta « Votre loup transparaît toujours dans vos yeux. Vous croyez que, si vous ne bougez pas du tout, personne ne le remarquera ? Cela ne marche pas avec moi, jeune homme. » Je me levai. J'aurais voulu nier le nom qu'il m'avait donné, mais il faisait montre d'une telle assurance que je ne serais parvenu qu'à me ridiculiser, je le savais. Or, je ne souhaitais pas avoir l'air ridicule devant Maître Tram. « Je ne me considère pas comme un jeune homme, » répliquai-je. « Mais peut-être avez-vous raison. Je parlerai moi-même à l'Est. » « Vous êtes plus jeune que moi, » dit-il alors que je m'éloignais. « Et pas seulement par le nombre des années, Maître Blaireau. » Je m'arrêtai et lui jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. « L'Est n'est pas le seul qui a besoin qu'on le forme à sa magie. » fit-il d'une voix juste assez forte pour n'être audible que de moi, seul. Mais je refuse d'enseigner à qui ne vient pas me le demander. Avertissez-en le petit aussi. Il doit me le demander. Je ne lui imposerai pas d'apprendre. Je compris que Tram me congédiait et je me remis en route. Soudain, je l'entendis déclarer comme s'il faisait une remarque en l'air. Une journée pareille remplirait Fragon de bonheur. Un ciel sans nuages et un vent léger, comme son faucon montré haut. C'était la réponse à la question que je n'avais pas posée. En même temps, une manifestation de compassion à mon égard. Il ne voulait pas que je me demande en vain qui, à Castelserre, avait trahi mon secret, et il m'annonçait qu'il tenait mon vrai nom d'une autre source. Fragon, la veuve de Rolf le Noir, l'homme qui s'était efforcé de m'enseigner le vif bien des années plus tôt. Je poursuivis mon chemin sans m'arrêter, comme si ces paroles n'avaient aucune importance, mais j'avais désormais un nouveau sujet d'inquiétude. Fragon avait-elle transmis ce qu'elle savait directement à Tram, ou bien ce renseignement avait-il voyagé de bouche à oreille avant de lui parvenir? Combien de vifiers connaissaient ma véritable identité? Quel danger représentait cette information? Comment pouvait-on l'employer contre le trône loin-voyant? Ce jour-là, c'est la tête ailleurs que j'accomplis mes tâches quotidiennes. J'avais un exercice de maniement d'armes avec ma compagnie de garde, et j'en sortis plus couvert de bleu que d'habitude. Il était prévu aussi un dernier essayage de nos nouveaux uniformes. J'avais intégré depuis peu la garde princière, récemment créée. Ambre s'était arrangée non seulement pour qu'on m'engage dans cette troupe d'élite, mais aussi pour que le tirage au sort me désigne pour escorter le prince lors de sa quête. Le ton de la tenue de la garde princière était bleu sur bleu, avec l'emblème du cerf loin-voyant sur la poitrine. J'espérais recevoir la mienne assez tôt pour avoir le temps d'y ajouter discrètement les petites poches qui me seraient nécessaires. J'avais déclaré renoncer à mon rôle d'assassin au service des loin-voyants, certes, mais je n'en avais pas pour autant jeté les instruments aux orties. Par bonheur, je n'avais pas rendez-vous avec Imbre ni avec Devoir cet après-midi-là, car l'un comme l'autre aurait perçu aussitôt mon trouble. Je finirais par mettre le vieillard au courant, bien évidemment. Il ne devait pas rester dans l'ignorance d'un tel renseignement. Mais je ne souhaitais pas lui en faire part tout de suite. Je voulais d'abord l'analyser seul et voir comment il se ramifiait. Et le meilleur moyen pour cela, je le savais, consistait à en détourner mes pensées. Quand je descendis à Bourg de Castelserre ce soir-là, je décidai de m'accorder un répit et, au lieu de me rendre à la taverne où se réunissaient les Outréliens, de passer quelques heures en compagnie de Heur. Il me fallait annoncer à mon fils adoptif que j'avais été choisi pour suivre le prince et lui faire des adieux précoces au cas où je n'aurais pas l'occasion de le revoir avant le départ. Je ne l'avais pas rencontré depuis quelque temps, et le peu de jours qui nous séparaient de l'embarquement justifiait que je demande à Maître Guindast une soirée complète avec Heur. Je me réjouissais fort des progrès qu'il accomplissait depuis qu'il avait pris pension avec les autres apprentis et se consacrait sérieusement à son travail. Maître Guindast comptait parmi les meilleurs ébénistes de la ville, et je me félicitais qu'il eût accepté, moyennant un petit coup de pouce d'Imbre, de prendre Heur sous son aile. Si le garçon y mettait du sien, un bel avenir l'attendait dans quelques régions des six duchés où il décida de s'installer. J'arrivai alors que les apprentis se préparaient à dîner. Maître Guindast était absent, mais un de ses compagnons les plus anciens me permit d'emmener Heur. Je m'étonnais de ses manières bougonnes, mais les attribuais à un souci personnel. Cependant, Heur lui-même ne parut pas aussi ravi de me voir que je m'y attendais. Il prit son temps pour aller chercher son manteau, puis il m'accompagna dans la rue sans desserrer les dents. « Heur, tout va bien ?» demandai-je enfin. « De mon point de vue, oui, » répondit-il à mi-voix, « mais tu ne le partages sûrement pas. J'ai donné à Maître Guindast ma parole de me tenir la bride, et je trouve vexant qu'il ait jugé utile de te faire venir pour me sermonner, toi aussi. J'ignore complètement de quoi tu parles. » dis-je en m'efforçant de m'exprimer d'un ton posé, alors que l'accablement s'emparait de moi. Je devais partir à peine quelques jours plus tard. Aurais-je le temps, dans un si bref délai, de tirer mon garçon d'un éventuel mauvais pas? Les idées confuses, je déclarai tout à trac. Mon nom est sorti lors du tirage au sort des gardes. Je m'embarquerai bientôt avec le prince pour l'escorter pendant sa mission dans les îles d'outre-mer. Je venais te le dire et passer une soirée en ta compagnie avant l'appareillage. Il poussa un grognement de contrariété, mais j'ai l'impression qu'il s'adressait à lui-même. Il m'avait appris qu'il avait un problème alors que, avec un peu plus de circonspection, il aurait pu le garder secret. Son dépit, je crois, l'emporta sur toute autre réaction qui aurait pu susciter chez lui l'annonce de mon départ. Nous continuâmes de marcher côte à côte et j'attendis qu'il prenne la parole. Un grand silence régnait dans les rues de Bourg de Castelserre. Avec le printemps, la lumière commençait à perdurer à la fin du jour, mais les gens se levaient aussi plus tôt et travaillaient plus longtemps, si bien qu'ils se couchaient en général avant la tombée de la nuit. Comme Heur restait muet, je déclarai enfin. Le chien au sifflet se trouve au bout de la ruelle. On y mange bien et la bière est bonne. On y va ? Sans me regarder, il répondit. J'aimerais mieux le porc coincé si ça ne te dérange pas. Si, ça me dérange, répliquai-je d'un ton que je voulais amène. C'est près de chez Gina et elle s'y rend certains soirs. Or, tu sais que nous nous sommes séparés, elle et moi. Je préférerais ne pas la croiser si je puis l'éviter. J'avais aussi découvert, un peu tardivement, que le port coincé était considéré comme un lieu de rendez-vous pour les vifiers, bien que nul n'eût porté cette accusation de manière officielle. La piètre réputation de la taverne provenait en partie de ses on-dits. Pour le reste, elle tenait à la crasse et à la mauvaise tenue de l'établissement. « Ne serait-ce pas plutôt parce que Svania habite à côté ?» me demanda Heur d'un ton mordant. Je réprimais un soupir et dirigeais mes pas vers le port coincé. Je croyais qu'elle t'avait délaissé au profit de son matelot et de ses jolis cadeaux. Il se raidit mais conserva un ton posé.
C'est ce que je pensais aussi. Mais quand Reften a repris la mer, elle a pu me revoir et me révéler la vérité. Ce sont ses parents qui ont arrangé ses fiançailles, et c'est pourquoi il me détestait tant.
Il croyait donc que tu la savais promise et que tu persistais néanmoins à la fréquenter.
J'imagine.
À nouveau le même ton neutre. Dommage qu'elle n'ait pas songé à prévenir ses parents qu'elle te jouait la comédie, ou qu'elle ne t'ait pas parlé de ce Reften.
Tu te trompes, Tom.
Un grondement de colère commençait de percer dans sa voix.
Elle ne voulait jouer la comédie à personne. Elle a cru tout d'abord que nous resterions de simples amis et n'a pas vu de raison de m'avertir qu'elle était fiancée. Quand nous avons commencé à éprouver des sentiments l'un pour l'autre, elle a eu peur de m'avouer sa situation de crainte que je ne la juge infidèle à son prétendant. Mais en réalité, elle ne lui a pas donné son cœur. Il n'a jamais eu d'elle que la parole de ses parents.
Et lorsqu'il est revenu, il prit une profonde inspiration et refusa de céder à l'exaspération.
C'est compliqué, Tom. La mère de Svania est de santé délicate, et elle tient à cette union. Reften est le fils d'un de ses amis d'enfance. Quant à son père, il refuse de revenir sur sa promesse maintenant qu'il a donné son accord. C'est un homme fier. Aussi, quand Reften est rentré, Svania a estimé préférable de feindre que rien n'avait changé pour la durée de son bref séjour à terre.
Et à présent qu'il a repris la mer, elle recommence à te fréquenter.
Oui.
D'après la sécheresse de sa réponse, il n'avait manifestement pas envie d'en dire davantage. Tout en marchant, je mis la main sur son épaule. Je sentis ses muscles noués, durs comme le roc. Je posai la question à laquelle je ne pouvais me dérober.
Et que se passera-t-il quand il mouillera de nouveau au port avec des cadeaux,
certain d'être l'élu de son cœur?
Elle lui dira que c'est moi qu'elle aime, répondit-il à mi-voix. Ou bien, je m'en chargerai.
Nous poursuivîmes un moment notre chemin en silence. Sous ma main, ses muscles demeuraient tendus, mais au moins il ne la repoussait pas.
Tu me juges niais,
dit-il enfin alors que nous tournions dans la rue où se situait le port coincé.
Tu crois qu'elle s'amuse avec moi, et qu'au retour de Reften, elle me rejettera à nouveau?
Je m'efforçais de prendre un ton doux pour atténuer la dureté de ma réponse. Ça me paraît possible, en effet. Il soupira et je sentis son épaule s'affaisser.
À moi aussi. Mais qui puis-je, Tom? Je l'aime. J'aime Svania et nul autre. Elle est la moitié de moi-même, et quand nous nous retrouvons, nous formons un tout dont l'évidence m'éblouit. À en parler ainsi, seul avec toi, je me fais l'impression d'un naïf. Et alors j'élève des doutes tout comme toi. Mais quand je suis avec elle, et qu'elle me regarde dans les yeux, je sais qu'elle dit la vérité.
Nous continuâmes à marcher en silence. La ville changeait de rythme et se détendait du rude travail de la journée pour aborder l'heure du repas commun et de l'intimité familiale. Les commerçants fermaient leurs volets pour la nuit. Des odeurs de cuisine s'échappaient des logis et les tavernes faisaient de l'œil aux gens comme Heur et moi. Bien inutilement, je regrettais que nous ne puissions nous asseoir simplement l'un en face de l'autre pour savourer un copieux dîner. Je le croyais sorti d'affaires et me rassurais de cette idée chaque fois que je songeais à mon départ. Je lui posais une question à la fois inévitable et stupide.
Est-il
envisageable que tu cesses de la voir pendant quelque temps?
Non.
Il n'avait pas repris son souffle pour répondre. Le regard fixé droit devant lui, il poursuivit.
Je ne peux pas, Tom. Je ne puis l'écarter de ma vie davantage que renoncer à respirer, à boire ou à me nourrir.
Alors j'exprimai franchement mes craintes. J'ai peur que cette affaire ne t'attire des ennuis en mon absence, Heur. Et je ne parle pas seulement d'une rixe avec Reften, ce qui serait déjà grave en soi. Maître Cordaguet ne nous porte ni l'un ni l'autre dans son cœur. S'il croit que tu as compromis l'honneur de sa fille, il risque de vouloir te le faire payer.
« Je suis capable de lui tenir tête, » fit-il avec brusquerie,
et je sentis la tension regagner ses épaules. « Et alors, tu recevras une raclée,
ou bien tu l'assommeras à coups de poing. Je me suis battu avec lui, Heur, ne l'oublie pas. Il ne demandera pas grâce et il ne t'accordera aucune pitié. Si la garde municipale ne s'était pas interposée, nous aurions continué à nous bagarrer jusqu'à ce que l'un de nous deux perde connaissance ou meure. Mais, sans aller jusque-là, il dispose d'autres moyens de se venger. Il peut se plaindre auprès de Guindast de l'immoralité de son apprenti. Ton maître ne prendrait pas cela à la légère, ne crois-tu pas? D'après ce que tu me dis, il ne me paraît pas déjà très satisfait de toi, et il pourrait fort bien te mettre à la porte. Ou bien Cordaguet pourrait jeter sa fille à la rue. Que ferais-tu alors? Je la recueillerai, et je pourvoirai à ses besoins, répondit Heur d'un ton farouche. Et comment? N'importe comment. Je n'en sais rien, mais je la protégerai. La colère qui sous-tendait ces paroles était dirigée, non contre moi, mais contre lui-même, contre son incapacité à réfuter ma question. Je jugeais diplomatique de me taire. Rien ne dissuaderait mon garçon de continuer sur le chemin qu'il avait choisi, et si je m'obstinais, il se détournerait de moi pour suivre sa belle. Nous continuâmes notre marche, et alors que nous approchions de la taverne, je ne pus m'empêcher de demander. Vous vous voyez en secret, n'est-ce pas? Oui, répondit-il à contre-cœur. Je passe devant chez elle. Elle me guette sans faire mine de rien, et lorsqu'elle me voit, elle trouve un prétexte pour sortir un peu plus tard dans la soirée afin de me rejoindre. Ou pour coincer? Non, bien sûr que non. Nous avons trouvé un coin tranquille, rien que pour nous deux. C'est ainsi que je longeais la maison de Svania, avec l'impression de prêter la main à leur dissimulation. J'ignorais jusqu'alors où elle habitait. Comme nous suivions la façade, nous vîmes Svania assise sur les marches de l'entrée, en compagnie d'un petit garçon. Je n'avais pas songé qu'elle avait des frères et sœurs. À notre apparition, elle se leva subitement et rentra dans la maison avec l'enfant, comme si elle nous battait froid, Heur et moi. Nous continuâmes notre route jusqu'au port coincé. Je n'avais guère envie de franchir le seuil, mais Heur pénétra le premier et je dus le suivre. Le propriétaire nous salua d'un hochement sec de la tête. Je m'étonnais qu'il ne me chasse pas. Lors de ma dernière visite, je m'étais battu avec Cordaguet et on avait appelé la garde municipale. Une rixe n'avait peut-être rien d'exceptionnel dans l'établissement. D'après la façon dont le serveur l'accueillit, Heur était devenu un client régulier. Il s'installa à une table dans un coin, comme s'il s'agissait de sa place habituelle. Je déposai une pièce sur le plateau, et on nous apporta deux chopes de bière et deux assiettes d'une médiocre matelote, accompagnées de pain rassis. Nous entamâmes le repas sans guère parler, et je sentis que Heur surveillait l'heure et calculait combien de temps il faudrait à Svania pour trouver un prétexte qui lui permettrait de gagner leur lieu de rendez-vous. J'avais l'intention de confier une somme à la garde de Guindast, afin que tu disposes de quelque argent pendant mon absence. Tu n'aurais qu'à lui demander à mesure de tes besoins. Mon garçon secoua la tête, la bouche pleine. Il avala et répondit à mi-voix. Ça n'irait pas. S'il se montrait mécontent de moi pour un motif ou un autre, il refuserait de me verser la plus petite piécette. Et tu penses que ton maître risque d'avoir des raisons de ne pas être satisfait de toi? Il se tut un instant, puis déclara. Il se croit obligé de régenter ma vie comme si j'avais 10 ans. Mes soirées m'appartiennent, et je les occupe comme je l'entends. Tu payes mon apprentissage, j'accomplis mon travail pendant la journée, le reste ne le regarde pas. Mais non, il veut que je demeure avec les autres apprentis à ravauder mes chaussettes jusqu'à ce que sa femme nous crie de cesser de gaspiller les bougies et d'aller nous coucher. Je n'ai pas besoin qu'on me surveille ainsi, et je ne le supporterai pas. Je vois. Nous continuâmes de manger notre repas insipide en silence. Je devais prendre une décision, et je n'y arrivais pas. Heur était trop orgueilleux pour me demander de lui remettre directement l'argent. Quant à moi, je pouvais refuser de le lui donner pour manifester ma désapprobation, car, de fait, son attitude ne me plaisait pas. Elle le conduirait droit dans le pétrin, et si cela se produisait après mon départ, il aurait peut-être besoin d'argent pour s'en tirer. Je connaissais assez bien la prison de Bourg-de-Castelserre pour ne pas souhaiter à mon garçon d'y croupir, incapable de payer une amende. D'un autre côté, en lui laissant des fonds propres, ne lui fournirais-je pas la corde pour se pendre? Ne les dépenserait-il pas en présents destinés à impressionner sa belle, en repas et en beuveries? C'était possible. En fin de compte, tout se réduisait à cette question. Avais-je confiance en ce garçon que j'élevais depuis 7 ans?
Il avait déjà renié une grande partie de mon éducation. Toutefois, Burick en aurait dit autant de moi au même âge s'il avait su que je me servais du vif. Humbre également s'il avait été au fait de mes excursions secrètes en ville. Et pourtant, tel que j'étais aujourd'hui, je ne différais guère de celui qu'ils avaient voulu façonner, à tel point que je préférais ne pas sortir une bourse pleine dans une taverne d'aussi piètre réputation que le Port Coincé. Dans ce cas, je te donnerais simplement l'argent, en comptant sur toi, pour l'employer avec discernement, dis-je à mi-voix. Le visage de Heur s'illumina, non sous l'effet de la cupidité, mais à cause de la confiance que je lui manifestais. « Merci, Tom. J'y ferai attention. » Après cela, notre dîner se déroula dans une atmosphère plus agréable, et nous parlâmes de mon voyage. Il voulut savoir combien de temps je resterais absent, et je lui répondis que je l'ignorais. Il me demanda si je courais du danger, car le bruit s'était répandu que le prince devait tuer un dragon en l'honneur de la Narcheska. D'un ton léger, je tournai en dérision l'idée même que nous puissions trouver une telle créature dans les glaces des îles d'outre-mer, et j'ajoutais sans mentir que je m'attendais beaucoup plus à souffrir d'ennui et d'inconfort qu'à risquer ma vie. Je n'étais après tout qu'un petit garde de rien du tout qui avait le privilège d'escorter le prince, et je passerais sans doute le plus clair de mon temps à attendre les ordres de mes officiers. Nous éclatâmes de rire à cette perspective, et j'espérais qu'il avait compris mon sous-entendu. Obéir à un supérieur ne représentait pas une infantilisation, mais un devoir auquel tout homme devait se plier un jour ou l'autre. Cependant, s'il perçut l'image, il n'en dit rien. Nous ne nous attardâmes pas à la taverne. Le repas ne le méritait pas et je sentais l'impatience de Heur de retrouver Svania. Mon cœur se serrait chaque fois que j'y songeais, mais je savais que je ne détournerais pas mon garçon de son but. Aussi, après avoir rapidement achevé de manger, nous repoussâmes nos assiettes et quittâmes le Port Coincé, puis nous marchâmes côte à côte un moment en regardant le soir envahir Bourg de Castelserre. À l'époque de mon enfance, les rues auraient été quasiment désertes à cette heure, mais la ville avait grandi et les commerces nocturnes s'étaient développés. À un carrefour fréquenté, des femmes déambulaient lentement et lançaient des œillades aux hommes en échangeant des propos décousus en attendant qu'on les aborde. Soudain, Heur s'arrêta. « Je dois y aller, » dit-il à mi-voix. Je m'abstins de tout commentaire, hochai la tête, puis tirai de mon pourpoint la bourse que j'avais préparée, et la lui remit discrètement. « Quand tu sors, n'emporte pas toute la somme, mais seulement ce dont tu estimes avoir besoin. Connais-tu un endroit sûr où la cacher ?»«
Merci, Tom. »
Il prit la bourse d'un air grave et la fourra dans sa chemise.
« Oui, je sais où la ranger, du moins, pas moi, mais Svania. Je lui demanderai de me la garder. »
Je dus faire appel à toute ma maîtrise de moi-même et à tous mes talents de comédien pour empêcher mon inquiétude de transparaître sur mes traits ou dans mon regard. J'acquiesçais de la tête, comme si je ne doutais pas un instant que tout irait bien. Puis je l'étreignis brièvement, tandis qu'il me recommandait la prudence pendant mon voyage, et nous nous séparâmes. Je n'avais pas envie de rentrer tout de suite au château. Entre les déclarations de Tram et les révélations de Heur, la journée avait été mouvementée. En outre, la cuisine du Port Coincé avait contrarié mon estomac plus qu'elle ne l'avait rassasié. J'aurais été étonné de la garder longtemps. J'empruntai donc un chemin différent de celui de Heur, de peur de lui donner l'impression que je le suivais, et me promenais quelque temps sans but dans les rues de Castelserre. En moi, l'angoisse le disputait aller seulement. Je m'aperçus tout à coup que je passais devant un atelier de tailleur qui avait remplacé la chandellerie où Molly travaillait autrefois. Je secouai la tête et pris la direction des quais, que j'arpentais un long moment en comptant les navires venus d'outre-mer, de Terrylville, de Jamaïlia et de plus loin encore pour les comparer aux nôtres. Les quais étaient plus longs et plus encombrés que dans mes souvenirs d'enfance, et les vaisseaux étrangers aussi nombreux que ceux des Siduchés. Comme je longeais l'un d'eux, j'entendis la grasse plaisanterie que lança un outrilien et les réparties bruyantes de ses compagnons. Je constatai non sans fierté que je parvenais à les comprendre. Les bâtiments qui devaient nous conduire aux îles d'outre-mer étaient amarrés aux quais principaux. Je ralentis le pas pour observer leur gréement nu. Les manœuvres de chargement avaient cessé pour la nuit et des hommes montaient la garde au bas des passerelles qui illuminaient des lanternes. Les navires paraissaient de grandes dimensions, mais je savais à quel point ils sembleraient étriqués au bout de quelques jours en mer. En dehors de celui qui transportait le prince et sa suite soigneusement choisie, trois autres avaient été prévus pour les aristocrates de moindre rang, leurs bagages et toute une cargaison de présents et d'articles commerciaux. Celui du prince s'appelait la fortune de vierge, et il avait fait ses preuves en matière de maniabilité et de capacité à tenir la mer. Nettoyé, curé, repeint et doté d'une voilure neuve, il paraissait sortir d'un chantier naval. Navire marchand conçu pour le transport du fret, il perdait en vitesse ce qu'il gagnait en contenance et en stabilité grâce à sa coque arrondie comme le ventre d'une truie gravide. On avait agrandi le poste de l'équipage pour lui permettre d'accueillir convenablement ses nobles hôtes. Le vaisseau me parut trop chargé dans les hauts et je me demandais si son capitaine approuvait les modifications apportées à son bâtiment pour le confort de devoir. Je devais voyager à son bord avec le reste de la garde princière. Humbre m'obtiendrait-il des quartiers personnels, ou bien devrais-je me contenter de l'espace dont je parviendrais à m'emparer, selon l'habitude des gardes? Vaine interrogation, je le savais. Adviendrait ce qui adviendrait, et je devrais m'en accommoder. Morose, je regrettais de ne pouvoir couper à ce voyage. Je me rappelais une époque où j'attendais avec une impatience fébrile le moindre déplacement. Le jour du départ, je me réveillais à l'aube, vibrant d'enthousiasme à l'idée de l'aventure à venir, et j'étais prêt à me mettre en route alors que d'autres s'extirpaient encore laborieusement de leurs draps. J'ignorais quand j'avais perdu cette ardeur, mais elle avait définitivement disparu, et je ressentais désormais, non plus de l'exaltation, mais une angoisse croissante. À la seule perspective du voyage en mer, des longues journées à passer entassées comme harengs en caque pendant que nous ferions voile vers le nord-est, je souhaitais avoir la possibilité de me retirer de l'expédition. Je préférais ne même pas songer à la suite, l'accueil incertain des Outriliens et notre long séjour dans leur pays de roc et de glace. Quant à découvrir un dragon emprisonné dans un glacier et lui couper la tête, c'était au-delà de mon imagination. À la nuit presque tombée, je me surpris à ronchonner contre la Narcheska et l'étrange façon qu'elle avait imposée au prince de se montrer digne de sa main. Je ne cessais de chercher un motif compréhensible au choix de cette épreuve et n'en trouvais aucun. Et ce soir-là, alors que j'arpentais les rues venteuses de Bourg-de-Castelserre, je me heurtais à ma plus grande inquiétude. Plus que tout, je craignais le moment où le fou découvrirait que j'avais révélé ses plans à Ambre. Je m'étais employé au mieux à nous réconcilier après notre dispute, mais depuis, je n'avais guère passé de temps avec lui. J'en étais en partie responsable, car je l'évitais de peur de me trahir par un regard ou un geste, mais la faute lui en incombait surtout. Sire Doré, puisqu'il se faisait appeler ainsi à présent, avait considérablement changé de conduite ces derniers temps. Jusque-là, sa fortune lui permettait de s'offrir une garde-robe extravagante et les objets les plus exquis, mais il l'étalait désormais de façon beaucoup plus vulgaire. Il dépensait son argent comme un serviteur débarrasse un plumeau de sa poussière. Outre ses appartements du château, il louait le premier étage de la Clé d'Argent, auberge de Bourg-de-Castelserre qu'aimaient fréquenter les riches. Cet établissement à la mode s'accrochait comme une bernacle à un terrain escarpé où l'on eût dédaigné de construire à l'époque de mon enfance. Cependant, de ce perchoir, on jouissait d'une vue imprenable sur la ville et la mer. Sire Doré y entretenait son cuisinier et son personnel particulier. Les vins rares et les mets exotiques que, selon la rumeur, il servait à ses invités plaçaient sa table bien au-dessus de celle de la reine elle-même. Tandis qu'il se restaurait avec ses amis les plus proches, les meilleurs artistes se disputaient son attention. Et il n'était pas inhabituel, disait-on, qu'il invite un ménestrel, un acrobate et un jongleur à se donner simultanément en spectacle, disséminé dans la salle à manger. Ces banquets étaient invariablement précédés et suivis de jeux de hasard aux mises si élevées que seuls les plus fortunés et les plus dépensiers des jeunes nobles pouvaient se mesurer à leur hôte. Il se levait tard et ses soirées s'achevaient à l'aube. On prétendait aussi qu'il ne se contentait pas de flatter son seul palais. Quand un navire qui avait relâché à Terrilleville, à Jamaïlia ou aux îles pirates mouillées au port, on pouvait avoir la certitude qu'il lui amenait un visiteur. Courtisanes tatouées, anciens esclaves jamaïliens, garçons jeunes et minces aux yeux maquillés, femmes en tenue guerrière et marins aux yeux sombres se présentaient à sa porte. restait enfermé dans ses appartements, une, deux ou trois nuits, puis reprenait la mer. D'aucuns disaient qu'il lui apportait de l'herbe à fumer, de la meilleure qualité, ainsi que de la sindine, vice jamaïlien récemment apparu à Castelserre. D'autres qu'il venait satisfaire ses autres appétits de jamaïlien. Ceux qui osaient lui poser des questions sur ses invités particuliers n'avaient droit qu'à un regard narquois ou un mutisme catégorique. Curieusement, ces frasques paraissaient n'accroître sa popularité qu'auprès d'une certaine tranche de l'aristocratie des six duchés. Plus d'un jeune noble dut quitter Castelserre en hâte, sévèrement rappelé chez lui, ou reçut la visite d'un parent inquiet du coup de l'entretien d'un jeune homme à la cour. Chez les plus conservateurs, on affirmait en grommelant que l'étranger dévoyait la jeunesse de Castelserre. Pourtant, plus que de la réprobation, je percevais une fascination quasi lubrique devant les excès et l'immoralité de Sire Doré. On pouvait suivre la progression des enjolivures que subissait en passant de bouche à oreille les ragots qui le concernaient. Néanmoins, à la base de chaque rumeur aux multiples arborescences se trouvait une racine à la réalité indéniable. Sire Doré s'était aventuré dans un royaume de démesure que nul n'avait abordé depuis la mort du prince royal. Je ne comprenais pas son attitude, et cela me troublait fort. Mon humble rôle de Tom Blaireau ne me permettait pas de rendre visite au grand jour à un personnage aussi altier que le seigneur Doré, et lui ne cherchait pas à me rencontrer. Même quand il passait la nuit à Castelserre, ses appartements ne désemplissaient pas d'hôtes ni d'artistes avant l'heure où le ciel grisaillait. Certains prétendaient qu'il s'était installé à Bourg-de-Castelserre afin de se rapprocher des établissements de jeu et de dépravation, mais je le soupçonnais d'avoir changé de tanière pour échapper à la surveillance d'Imbre. Quant à ses invités nocturnes venus de l'étranger, ils ne servaient pas à distraire ses sens. C'étaient sans doute des espions et des messagers de ses amis du Sud. Quelles nouvelles lui fournissaient-ils? Quels renseignements leur donnait-il à rapporter à Terrilville et Jamaïlia? Pourquoi s'acharnait-il ainsi à ternir sa réputation et à dépenser sa fortune? Mais ces questions, comme mes interrogations sur les motifs de la Narchesca pour obliger le prince de voir à tuer le dragon Glacefeu, restaient sans réponse claire et n'avaient d'autre résultat que de tourner inlassablement dans ma tête pendant des heures que j'eusse mieux employées à dormir. Je levai les yeux vers les fenêtres treillagées de la clé d'argent. Mes pas m'avaient conduit devant l'auberge sans l'intervention de ma conscience. La lumière s'échappait à flots des salles opulentes de l'étage, et je distinguais de temps en temps les silhouettes des invités. Sur l'unique balcon, une femme et un jeune homme tenaient une conversation animée. J'entendais l'alcool dans leur élocution. Soudain, alors qu'ils parlaient à mi-voix jusque-là, ils haussèrent le ton et l'entretien prit la tournure d'une altercation. Je m'agenouillai comme pour relasser ma chaussure et tendis l'oreille.
« J'ai une excellente occasion de vider la bourse de Sire Verdoyant, à condition d'avoir de quoi miser. Rendez-moi ce que vous me devez, » dit le jeune homme sans aménité.
« Impossible !» La femme prononça le mot avec application, comme quelqu'un qui refuse l'ivresse.
« Je ne dispose pas de cette somme, mon petit. » Mais je la récupérerai bientôt, quand Sire Doré me paiera ce qu'il me doit de la partie d'hier. Je vous rembourserai alors. Si j'avais su que vous vous montreriez aussi rapace, jamais je ne vous aurais emprunté d'argent. »
Son interlocuteur poussa un cri étouffé, à la fois de consternation et d'indignation.
« Quand Sire Doré vous paiera vos gains, autant dire jamais. Chacun sait qu'il est incapable de rattraper ses dettes. Vous auriez dû me prévenir que vous jouiez contre lui. Je me serais bien gardé de vous prêter cette somme. »
« Vous n'étalez que votre ignorance, » répliqua la femme après un moment de silence interloqué. « Il jouit d'une fortune incommensurable. C'est de notoriété publique. À l'arrivée du prochain navire en provenance de Jamaïlia, il aura de quoi nous rembourser tous. »
Caché dans l'ombre, à l'angle de l'auberge, je ne perdais pas une miette de l'échange.
« Si un navire arrive de Jamaïlia, ce dont je doute, étant donné que la guerre tourne au désavantage de la ville, il faudra qu'il ait les dimensions d'une montagne pour apporter à Sire Doré de quoi payer ce qu'il doit aujourd'hui. N'avez-vous donc pas appris qu'il est en retard même pour son loyer et que le propriétaire lui permet de rester uniquement parce que sa présence attire les clients ?»
À ces mots, la femme se détourna rageusement. Mais il lui saisit le poignet.
« Écoutez-moi bien, pauvre cervelle d'oiseau.
Je vous préviens, je n'ai pas l'intention de faire preuve de patience. Vous avez intérêt à trouver le moyen de me rembourser, et dès ce soir. »
Il la parcourut du regard et ajouta d'une voix altérée.
« Je suis prêt à accepter d'autres monnaies que les espèces. »
« Ah, Dame Héliotrope, vous voici. Je vous cherchais, petite friponne. M'éviteriez-vous ?»
La voix tranquille de Sire Doré me parvint alors qu'il apparaissait sur le balcon. L'éclairage de la salle derrière lui se reflétait sur ses cheveux et détourait sa mince silhouette d'un trait lumineux. Il s'avança jusqu'à la rambarde, s'y accouda légèrement et promena son regard sur la ville en contrebas. Le jeune homme lâcha aussitôt le poignet de la femme. Elle s'écarta de lui avec un mouvement dédaigneux de la tête et rejoignit son hôte à son belvédère. Elle se tourna vers lui et dit du ton plaintif d'une petite fille.
« Cher Sire Doré, le seigneur capable, ici présent, vient de m'affirmer qu'il y avait peu de chances que vous me versiez le montant de notre pari. Je vous en prie, détrompez-le. »
Sire Doré eut un élégant haussement d'épaule.
« Ah, que les rumeurs prennent vite leur envol quand on tarde, ne serait-ce que d'un jour, à honorer une dette amicale.
On ne devrait jamais parier plus qu'on ne peut perdre, ou plus que ce dont on peut se passer avant de recevoir son dû.
N'êtes-vous pas d'accord, sire capable ?
Ou bien peut-être ne devrait-on parier plus qu'on ne peut payer sur le champ ?» répondit l'intéressé d'un ton insidieux.
« Grand Dieu, cela ne réduirait-il pas le jeu à ce qu'on peut porter dans ses poches ?
Les mises seraient bien minces alors. Quoi qu'il en soit, belle dame, pourquoi croyez-vous que je vous cherchais si ce n'est pour régler notre pari ?
Je gage que ceci représente une bonne partie de ce que je vous dois. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je m'acquitte de ma dette sous forme de perles plutôt que de pièces sonnantes et trébuchantes. »
Elle jeta un regard de défi au seigneur capable et à sa mine sombre.
« Pas du tout. Et si certains s'en offusquent, ma foi, qu'ils aient la patience d'attendre leurs grossières espèces. On ne doit pas jouer pour l'argent, cher Sire Doré. »
« Naturellement. Le risque donne sa saveur au plaisir du gain, ainsi que je le répète souvent.
N'en convenez-vous pas, capable ?»«
Si je n'en convenais pas, m'en porterais-je mieux ?»
repartit l'autre d'un ton aigre. Il avait remarqué, comme moi, que la femme ne faisait pas un geste pour lui rembourser ce qu'elle lui devait. Le rire cristallin de Sire Doré perça l'air frais de la soirée de printemps.
« Non, évidemment, mon ami. Allons, j'aimerais que vous rentriez tous deux avec moi pour goûter un nouveau vin. À rester dehors immobile dans le vent froid, on risque d'attraper la mort. Il doit sûrement se trouver une pièce accueillante où des amis, comme vous, peuvent s'entretenir en privé. »
L'homme et la femme quittèrent le balcon pour retourner dans la salle illuminée. Sire Doré, lui, resta un moment appuyé à la rambarde, le regard songeur, les yeux fixés sur moi, alors que je me croyais parfaitement dissimulé. Il inclina légèrement la tête à mon intention, puis disparut à son tour. Je demeurai sans bouger quelques instants, puis quittai les ombres, en proie à un certain agacement. D'abord parce que le fou m'avait repéré sans difficulté, ensuite parce que je n'avais pas pu déchiffrer sa proposition trop vague de me retrouver ailleurs. De toute façon, même si je mourais d'envie de parler avec lui, je redoutais encore plus qu'il ne s'aperçoive de ma trahison. Mieux valait éviter mon ami que devoir lire cette peine dans son regard. Tout seul, je m'enfonçais dans les rues enténébrées, la nuque glacée par le vent nocturne qui me poussait vers le château de Castelserre.